c'est 12 heures d'amplitude pour 4 ou 5 heures payées au SMIC.
J'ai fait un essai sur une grosse machine, ils m'ont fait voir comment c'était. Et comme j'avais de la rapidité et puis que je travaillais bien, ils m'ont tout de suite pris. J'ai été embauchée tout de suite.
Tous les jours, il y avait quelque chose de différent. Tous les jours, il y avait des urgences. Tous les jours, il fallait s'attendre à quelque chose.
Il fallait prendre le morceau de tissu, zzz, zzz. Et c'est pas tac, 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 tac.
Bah là, j'ai bien fait de continuer parce qu'après, je vais être contente de moi.
Ah, mais il y a de quoi être fière, hein.
Les mains d'or. Des mains tendues qu'on oublie parfois de serrer. Des petites mains. Des mains vertes. Oui, des mains qui soignent, nourrissent et produisent. Des mains qui nous grisent et puis surtout, qui nous racontent des histoires. Vous êtes sur Studio Zef 91.1 et les mains d'or, c'est leur voix.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une auteure, compositeur, interprète, Anna Madé. Bonjour Anna, comment vas-tu ?
Merci Sophie, écoute, ça va bien. Et toi ?
Très bien, merci. Quel est ton lien avec la musique ?
Écoute, je fais de la musique depuis toujours, depuis toute petite. J'ai été mise au piano assez jeune, entre 4 et 5 ans. Mes parents faisaient de la musique tous les deux. Et c'est vrai que la musique m'a toujours apporté beaucoup de relaxation, de détente. C'est mon exutoire.
Tu joues du piano, tu chantes. Est-ce qu'il y a d'autres instruments dans ta vie ?
Non, hormis la flûte au collège. Mais je crois que ça compte pas, ça.
Tu as fait partie de la génération flûte, parce que la nouvelle génération ne joue plus de la flûte.
Ah, très bien. Bah, tu vois, je ne savais même pas.
C'est très important de le savoir en tant que parent.
Tout à fait.
Je me demandais, oui, comment as-tu appris ? Mais en fait, t'es presque née avec la musique dans le sang.
C'est vrai que j'ai toujours été baignée par la musique, enfin dans la musique. Non seulement mes parents avaient des instruments à la maison, mon père jouait de la guitare, ma mère avait un piano dans son appartement. J'ai été mise au piano très jeune. Après, c'est un petit peu paradoxal, mais j'ai suivi des cours scolaires, enfin en tout cas voilà, en école de musique. Finalement, le cadre très protocolaire du solfège ne m'a pas du tout plu. En tout cas, plus jeune, je trouvais ça très rigoureux et très compliqué. Enfin voilà, j'aimais pas du tout les techniques d'apprentissage. Donc en fait, assez rapidement, quand je suis rentrée en sixième, j'ai demandé à arrêter l'école de musique. Mais j'ai quand même continué à la maison à jouer de la musique, créer de la musique. Et c'est plutôt à partir du moment où j'ai arrêté de faire de l'école, enfin j'ai arrêté de pratiquer en école de musique, que j'ai vraiment laissé libre cours à ma créativité musicale et que j'ai commencé à composer des chansons.
Tu avais quel âge quand tu as commencé à composer ?
Je pense que j'avais entre 10 et 11 ans. Des petits textes au début, des petites choses, plutôt des compositions musicales,
oui,
sans paroles. Et puis au fur et à mesure, bon, des bribes de textes comme on peut écrire à l'âge de 10 ans. Je pense que la prose n'était pas encore idéale, mais je posais déjà des mots, je posais déjà mes émotions en musique.
C'est pas simple de poser ses émotions, donc bravo à la petite fille que tu as été. En tout cas, ça c'est vraiment très très fort. Le processus créatif d'une chanson, comment ça se passe ? C'est la musique qui vient d'abord, les paroles qui viennent d'abord, le thème, l'émotion, qu'est-ce qui se passe ?
C'est une très bonne question et je pense que c'est propre à chaque artiste. Pour ma part, c'est beaucoup plus souvent une mélodie qui vient en premier lieu. Je m'assois sur le piano, alors il y a deux façons. Je m'assois sur le piano en me mettant vraiment en posture de « je veux créer, j'ai quelque chose à dire, à sortir » et naturellement, mes doigts pianotent et vont trouver des thèmes musicaux qui me plaisent, sur lesquels après, naturellement, en composant, en live, je rajoute des mots et j'écris en même temps. Donc j'ai une feuille de papier, j'ai un carnet, je note au fur et à mesure, l'inspiration arrive. Et des fois, ça peut aussi être, je ne suis pas du tout sur le piano, je suis dans la vie de tous les jours, et là, il y a un air qui me vient, et je le trouve vraiment sympa, et je me dis, il faut absolument qu'il ne me sorte pas de la tête, enfin, il ne faut pas que j'oublie dans une heure quand je pourrais être à mon piano, ou voilà. Donc, je prends en général mon téléphone, et j'enregistre sur le dictaphone ce petit air de musique, et je me le garde pour le jouer ultérieurement.
D'accord, donc en fait, fredonner, c'est peut-être pas le bon terme.
Si, c'est ça, tout c'est à ça. Fait. Je fredonne l'air, je m'aide des fois de mes mains pour avoir la rythmique, parce que des fois, on chantonne, mais finalement, on est loin des vibrations internes que ça procure. Et dans la tête, souvent, enfin, moi, je sais que dans ma tête, quand je pense à un air, j'ai tout l'orchestre avec, j'ai tous les instruments. Quand tu dois sortir ça par la voix, c'est beaucoup moins évident d'avoir toute cette richesse musicale. Donc j'essaye en général de faire quelque chose d'assez... le plus proche en tout cas de ce que je veux ressortir et surtout me donner les moyens quand je vais être devant mon piano de pouvoir retranscrire exactement ce que je voulais faire.
Donc tes créations ne sont pas que du piano-voix alors ?
Mes créations ne sont pas que du piano-voix. Néanmoins, ne sachant pas faire d'autres instruments, aujourd'hui, je suis aidée lorsque je vais en studio et que je veux vraiment concrétiser ma chanson de manière professionnelle. Je suis accompagnée par un arrangeur, Thibaut Lefort, qui m'aide donc, à Vincennes en studio pour la production musicale de mes titres.
Donc en fait, tu arrives avec un produit brut.
Exactement.
Et lui, il va en faire quelque chose de plus étoffé. De...
Ça reste un échange. C'est pas je lui donne et quelque part, il a une part de créativité complètement déconnectée de mes souhaits. Hein. Au contraire, on a des temps d'échange ensemble très conséquents pour que vraiment qu'il perçoive l'émotion, l'intensité que je veux mettre à quel moment de la chanson, la typologie d'instruments utilisés. Parce qu'en fait, un arrangement musical, il peut complètement changer une chanson. Hein. La rythmique, l'ambiance, donc tout ça on le décide ensemble, les instruments à utiliser aussi sont vus ensemble. Son rôle c'est vraiment de réussir à capter ce que je veux mettre en place techniquement, mais comme moi je n'ai pas cette expertise technique d'ingé son et d'arrangeuse, finalement il doit lire dans mes pensées, donc c'est à moi de lui transmettre le plus facilement possible mes idées.
Et de là c'est lui qui va jouer les instruments supplémentaires ou il va faire appel à d'autres musiciens du coup pour venir compléter?
Alors j'ai la chance, Thibaut est polyinstrumentiste et vraiment très doué dans son domaine, donc la plupart du temps les instruments dont j'ai besoin il sait les jouer. Je reste sur une base assez pop, donc on n'est pas face à une richesse instrumentale incroyable, donc on va dire que déjà ça c'est un point facilitant. Par ailleurs, on fait aussi appel à ce qu'on appelle la MAO, c'est-à-dire la musique assistée par ordinateur. Mmh. Et maintenant avec des logiciels, tu peux accéder à tout type d'instruments ou de bandes son déjà enregistrées.
Mais quelles sont tes influences ?
Ah, mes influences, elles sont riches. Lorsque j'étais petite, j'étais bercée dans la pop anglaise. Donc les Beatles, les Rolling Stones, j'ai également beaucoup écouté du R&B. En fait, tout ce qui passait dans les années 90 à la télé, sur MTV, etc. Pas beaucoup de chansons françaises. J'ai mis beaucoup de temps. Même des fois, je voyais, j'étais en décalage par rapport à mes amis de l'école, parce qu'en fait, eux écoutaient beaucoup de Lara Fabian, de Céline Dion, du Laurie. Et en fait, moi, Hélène Segarra, moi, j'étais la seule qui ne connaissait aucun de ces titres. Je connaissais les artistes, mais... À part le hit single qui va sortir, qu'on entend en boucle, et là, je ne pouvais pas passer à côté, tout le reste, non. Et par ailleurs, eux ne connaissaient pas non plus les hits des Beatles dont je leur parlais, et j'étais un petit peu en déconnexion par rapport à ça. Le gros point quand même avantageux des influences, on va dire, pop anglaise que j'ai eues, c'est que ça m'a beaucoup aidée niveau anglais, parce que c'est intéressant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été intéressée par le fait d'aller creuser les paroles, c'est un peu de mystère, c'est en anglais, qu'est-ce qu'ils racontent ? Et voilà, donc... Ça m'a beaucoup aidée et par ailleurs, mes premières compositions ont été en anglais. Je pense déjà parce que bercée dans de la musique en anglais. Et aussi, ça me permettait de garder un petit peu mon jardin secret parce que les premières compositions, elles sont un peu balbutiantes. Donc quelque part, c'est pas plus mal. Si en yaourt, on comprend pas trop ce que je dis.
Je t'ai demandé de me faire découvrir des musiques. Donc, quelle est la première chanson que tu nous apportes et pourquoi ?
Alors la première chanson, c'est Bombe. Bombe, c'est... une des dernières chansons de mon premier EP, Résilience. Résilience, c'est un EP qui parle de ma vie, de ma reconstruction. J'ai été victime d'inceste pendant toute mon enfance. Au-delà de l'inceste, il y a aussi eu des maltraitances physiques, psychologiques. Et j'ai eu besoin, comme je l'ai exprimé au début, de poser en émotion musicalement tout ça, tout ce bagage émotionnel très très fort. Bombe, c'est la dernière. Il faut savoir que Résilience a été construit... comme un chemin de reconstruction. Donc finalement, on part d'émotions négatives et on finit sur des émotions positives. Bombe, c'est une émotion positive, c'est la fierté, c'est le courage de s'assumer tel qu'on est. Et ça raconte, et vous allez l'entendre dans les paroles, que je suis peut-être pas une bombe, mais je m'en fiche, je suis là pour vivre ma vie. Et la vie est belle malgré toutes les horreurs subies. Et c'est un petit clin d'œil aux autres en leur disant, toi aussi, t'es peut-être pas une bombe, mais vis ta vie, elle est belle. Et t'as toutes les clés de ta vie en main pour être toi et réussir.
Eh ben, nous allons l'écouter.
Toute ma vie, j'ai cherché à être une bombe. Bombe à retardement, bombe physiquement, intellectuellement. Une belle éducation fait ça, dit ça.
aussi. Vois comme je lui souris, elle me le rend ainsi. Enfin ami. Mais le verdict tombe, je suis pas une bombe. Je profite de la vie et tu devrais aussi. Vois comme je lui souris, elle me le rend ainsi. Enfin ami. Toute ma vie, j'ai cherché à être une. D'avoir perdu du temps à chercher l'excellence au lieu de vivre l'instant présent. Quête de la réflexion, une belle introspection. Je suis mieux comme ça, je vis pour de bon. Mais le verdict tombe, je suis pas une bombe. Je profite de la vie et tu devrais aussi. Vois comme je lui souris, elle me le rend ainsi. Enfin ami. Mais le verdict tombe, je suis pas une bombe. Je profite de la vie et tu devrais aussi. Vois comme je lui souris, elle me le rend ainsi. Enfin ami. Mais le verdict tombe, je suis pas une bombe. Je profite de la vie et tu devrais aussi. Vois comme je lui souris, elle me le rend ainsi. Enfin ami. Mais le verdict tombe, je suis pas une bombe. Je profite de la vie et tu devrais aussi.
Tu as plusieurs flèches à ton arc et tu n'es pas qu'artiste. Tu as une autre, tu as un autre métier à côté. Bon, on n'en parlera pas parce que c'est pas du tout le propos. Mais est-ce que tu t'imaginerais vivre uniquement une vie où tu te dédies complètement à la chanson?
C'est une question que je me suis posée plusieurs fois. Quand j'ai commencé mes études, j'ai eu autour de moi, évidemment, donc pas mal de gens qui étaient musiciens. Naturellement, j'ai été amenée à faire pas mal de bœufs musicaux et m'entourer de gens avec qui on partage une passion en commun. Et il y avait un petit peu deux clans. Il y avait ceux qui rêvaient de faire de la musique et qui ne considéraient faire rien d'autre de leur vie, ce qui est beau, mais à mon sens, trop risqué. J'avais besoin, je pense, à cet âge-là aussi, de beaucoup de sécurité, n'en ayant déjà pas eu dans mon foyer familial. Et naturellement, j'ai relégué la musique au rang de passion. J'ai eu besoin quand même de, et j'ai eu la chance de pouvoir faire des études, d'aller jusqu'au bout de ce que je voulais accomplir d'un point de vue professionnel, de continuer à construire ma carrière professionnelle. Ça s'est stabilisé, j'ai plus de 30 ans maintenant, des choses aussi se sont soldées dans mon environnement familial. Donc forcément déjà, d'un point de vue sécurité et épanouissement, ça n'a rien à voir avec il y a 15 ans ou plus. Aujourd'hui, je suis dans une approche un petit peu différente. C'est de me dire, je me suis stabilisée professionnellement. Je suis toujours en quête de dynamisme et de challenge professionnel. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Mais j'arrive à mettre la passion à un rang un petit peu plus élevé qu'avant. On voit bien que depuis quelques années, j'essaie de professionnaliser mon approche. J'ai éditer des EP, enfin donc des mini-albums. Je suis allée en studio, je communique sur les réseaux sociaux. Je professionnalise vraiment mon approche musicale, surtout parce que je me suis aussi engagée pleinement. Au-delà de la musique, j'assume beaucoup plus mon passé. Personnellement, je suis passée à autre chose. C'est d'ailleurs parce que je vais mieux dans mon intimité qu'aujourd'hui, j'ai plaisir à témoigner et à faire ça pour les autres, finalement. Je pense qu'à l'époque où j'avais besoin d'avancer pour moi, j'étais en incapacité de faire quoi que ce soit pour les autres. Donc là, la démarche, elle est vraiment altruiste. Enfin, je dis ça sans me lancer de fleurs, mais c'est... Voilà, je suis devenue maman, donc le déclic, il est aussi venu de là. C'est de me dire des petites filles et des petits garçons, mais je reste dans une approche personnelle à l'origine. Il y en a plein sur Terre, et si tu peux aider, c'est important.
On parlera de ton engagement, mais là, je voudrais revenir sur le fait qu'on te trouve facilement sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait une autre approche des artistes qu'on a à l'heure actuelle. Certains, on ne les découvre que sur les réseaux sociaux. Moi, c'est mon cas. Hein. Je t'ai découvert parce que je suis tombée sur un de tes réseaux sociaux, qui est Instagram, et que j'ai commencé à te suivre parce que ça m'a parlé, que les extraits musicaux me plaisaient, mais d'autres choses me plaisaient. Et c'est une approche qui est complètement différente. Tu as commencé à vraiment créer du lien avec... à créer une communauté qui suit ta créativité musicale plus par les concerts ou par les réseaux? Comment ça s'est passé? Comment tu le ressens, toi?
Alors, les réseaux sociaux, c'est un outil effectivement formidable pour se faire connaître. J'ai commencé sur Instagram par des petites vidéos musicales. Je me suis créé une micro-communauté. Mais c'est vrai que ce n'est que depuis que j'ai parlé de mon engagement et ma lutte contre les violences sexistes et sexuelles que vraiment là, j'ai pu fédérer une communauté sensible à ma cause, sensible à mon parcours et qui s'identifie à mon chemin de résilience ou, sans s'y identifier, pourrait espérer avoir la même trajectoire. Voilà, après, avant, effectivement, c'était plutôt un réseau local, c'est-à-dire que sans les réseaux sociaux, j'ai grandi avec les réseaux sociaux apparaissants. C'est-à-dire que moi, Facebook, je pense que j'ai dû avoir mon premier Facebook à l'âge de 17 ans. Avant ça, à part à l'école ou les copains-copines qui me connaissent, parce qu'en classe de musique, on fait des petits moments musicaux et j'ai toute l'occasion et liberté de pouvoir chanter des petites créations musicales, ça restait très restreint.
Je te propose qu'on écoute la deuxième musique que tu nous as sélectionnée, qui est donc Je te crois, qui n'est pas dans ton dernier album, hein, c'est avant, c'est ça?
Alors, c'est bien dans mon dernier album, mais je comprends pourquoi tu me dis ça, c'est parce que Je te crois, c'est le premier single que j'ai sorti. Donc en fait, il est sorti en tout début d'année 2023 et on le retrouve dans l'EP que j'ai sorti en fin d'année. Donc c'est un single à part entière qui effectivement est sorti avant, mais je l'ai remis dans l'EP Fléau. Et Je te crois, c'est le texte en chanson que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, qui est dédié à toutes les victimes de violences, quelles qu'elles soient.
Non, tu ne peux pas dire je ne sais pas. Non, tu ne peux plus sous-estimer ces voix qui s'élèvent l'une après l'autre à tour de bras. Avant c'était secret, honteux, silencieux, malheureux, bref, rien que fouilleux. Oh, 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 maintenant c'est dit, impossible d'ignorer, ça se crie, se hurle, ça se sait. Yeah, yeah. Alors je compte sur toi pour que 2023 rime avec. Oh, 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 je te crois. Oh, oh, oh. Ça ne me fait rien. Non, tu ne peux pas ignorer ou te craindre si c'était ta femme, ta mère, ta soeur, ton ami. N'en penserais-tu rien? Avant c'était secret, honteux, silencieux, malheureux, bref, bien cafouilleux. Oh, 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 maintenant c'est dit, impossible d'ignorer, ça se crie, se hurle, ça se sait. Yeah, yeah. Alors je compte sur toi pour que 2023 m'avait. Peut-être demain proche. Ouvre les yeux, ouvre les deux. Maintenant, on n'a plus le temps. On a besoin de toi. Ce mal que l'on pointe du doigt fait des ravages, fait des ravages, fait des ravages, fait des ravages. Avant c'était secret, honteux, silencieux, malheureux, bref, bien cafouilleux. Oh, oh, je te crois. Oh, oh, je te crois. Oh, oh, je te crois.
Alors j'avoue, moi ça m'a mis les larmes aux yeux de réécouter ce texte que j'avais déjà entendu, bien entendu. Je trouve ton texte très très beau, même particulièrement, il me fait penser, moi, aux femmes qui ont témoigné de ce qu'elles ont vécu autour de moi. Et je trouve ça... c'est très difficile en fait, en tant que maman, en tant que femme, de penser à tout ce qui est violence sexuelle et de me dire que les violences sexuelles, ça va jusqu'au sein de la famille. C'est un truc qui est waouh, enfin, j'ai tellement de mal à comprendre ça. Et en tout cas, je risque pas de le valider, ça c'est sûr. Est-ce que tu aurais développé ta créativité s'il n'y avait pas eu cet engagement?
Alors, je dirais pas s'il n'y avait pas eu cet engagement, je dirais est-ce que j'aurais développé ma créativité à ce point si je n'avais pas eu cette enfance? Parce que finalement, toutes mes chansons que tu as entendues, que tu peux écouter, en fait, elles existent depuis longtemps. La seule différence, c'est qu'en fait, elles ont été mises à nu, elles ont été mises à jour que récemment. Parce qu'effectivement, mon engagement a été porté par la naissance de ma fille, par le fait que je me sente plus en sécurité, que je sois épanouie. Mais finalement, la question que je me suis des fois posée, c'est de me dire finalement... c'est marrant parce que mon père est mon agresseur, mais finalement c'était lui le plus artiste de la famille, qui chantait bien, qui jouait très bien de la guitare, qui avait lui-même composé aussi des chansons, je pense lui aussi pour d'ailleurs échapper à des tourments personnels. Donc c'est marrant parce que finalement, et je le dis dans un des derniers épisodes de mon podcast, c'est que finalement il m'a donné les propres clés pour sortir de l'enfer qu'il avait lui-même créé, puisque finalement la créativité musicale... c'est comme si génétiquement elle me venait plus de lui que n'importe qui d'autre dans la famille, puisque à part lui et puis un petit peu ma maman, mais finalement il n'y a personne qui est vraiment de la musique dans la famille. Donc la question, oui, c'est de me dire, voilà, après on ne pourra jamais refaire l'histoire, c'est comme ça, j'ai cette chance d'avoir eu depuis toujours, c'est vrai, je chante oui, plutôt juste, et même sans avoir travaillé ma voix, enfant, j'avais déjà une certaine justesse vocale. Est-ce que si j'avais pas été malheureuse comme ça, est-ce que j'aurais vraiment pris du temps à extérioriser en musique? Oui, probablement que non. Après, j'aurais aimé la musique, mais est-ce que j'aurais fait tout ce que j'ai fait? Non. Mais je vois ça positivement quand même aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas grave, j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, de toute façon l'histoire on va pas la refaire. Le plus important, c'est pas forcément ça, c'est plutôt de me dire aujourd'hui si j'arrive à en faire une force et que finalement je transmets tout cela de façon positive pour aider les uns et les autres à se reconstruire à leur tour ou à essayer d'endiguer un fléau social tel que l'inceste et les violences en tout genre, en communiquant dessus de manière plutôt ludique, parce que la musique, ça reste un divertissement, bah là, je pourrais me dire que j'ai tout gagné.
Tu me fais penser à un chanteur très connu qui a dit un jour que plus ses chansons étaient gaies, plus elles parlaient d'horreur.
Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est intéressant.
C'est quelqu'un qui est très joyeux comme artiste. Et c'est vrai, quand on écoute bien certaines paroles sur certaines de ses chansons très gaies, on se dit « Oula !» Oups. Oui. Et voilà, et je pense que ça m'a fait un peu l'effet, cet effet-là tout à l'heure en réécoutant Je te crois. C'est quelque chose de très entraînant, de très, très sympa. Et ça me fait un peu penser à ces professionnels de l'enfance qui vont être pleins de tendresse, de sourire et d'amour et qui vont se retrouver confrontés à des enfants qui subissent des choses innommables. Et il faut arriver à garder ce sourire, ce bien-être pour montrer à l'enfant qu'il n'y a pas que ça et que ça ne fait pas de lui un monstre en tout cas.
Oui. Tu sais que c'est paradoxal, parce que c'est marrant ce que tu dis, parce que sur les réseaux sociaux, bon, heureusement, et j'en suis soulagée, j'ai plus eu des vagues d'amour que des vagues de haine, qui n'étaient pas forcément une... J'avais cette crainte hein, quand même, hein, de, quand on s'expose sur les réseaux sociaux, au-delà du fait que j'ai un nom d'artiste, bah, en fait, on s'expose quand même de manière assez entière. Et beaucoup de gens m'ont reproché mon sourire, justement, en disant... ça ne peut pas être vrai que tu aies vécu tout ça, sinon tu ne serais pas aussi souriante. Ça veut dire que pour eux, au-delà du fait qu'ils ne sont pas dans une reconnaissance et une tolérance de comment chacun peut avoir déjà vécu des choses et comment il peut s'en être reconstruit, c'est qu'ils n'appréhendent même pas l'idée qu'on puisse s'être reconstruit positivement après de tels drames. Et quand je reviens à ce que tu disais pour les chansons, c'est vrai qu'elles sont assez entraînantes, positives. Il y a un petit peu de tout, mais dans l'ensemble, ce sont des chansons qui font vibrer beaucoup d'émotions, mais qui sont conduites peps. Et d'ailleurs, mon premier EP, on peut l'écouter sans se dire... Enfin, je veux dire, si on ne sait pas que j'ai été victime d'inceste et de violence, on peut l'écouter en se disant juste, c'est une femme qui raconte que, bah, elle a traversé des moments difficiles, maintenant elle va mieux, mais sans se projeter sur une horreur telle que ce que j'ai vécu. les textes restent assez audibles pour monsieur et madame tout le monde. C'était un souhait.
La sensibilisation concernant l'inceste, hein, tu ne fais pas uniquement par des chansons, tu interviens auprès des enfants ?
Oui, tout à fait. En fait, plusieurs lycées notamment m'ont sollicité en me découvrant aussi sur les réseaux sociaux, en prenant connaissance de mon parcours et du fait que j'arrivais à retranscrire toute cette résilience donc, en musique. C'est un format qui leur plaît. J'ai par ailleurs été interviewée par Thibaut InShape, qui est un youtubeur assez connu et donc qui est en tout cas connu auprès des jeunes. Donc finalement, ces petites informations mises à la suite les unes des autres ont fait que auprès des jeunes, j'arrive à avoir une forme d'accessibilité, de proximité qui en tout cas permet de faire de la prévention autour de l'inceste de manière assez posée, ludique. Ludique, c'est le terme peut-être fort, mais en tout cas de manière, oui, posée, intimiste, je dirais ça. Les jeunes me disent souvent qu'ils se sentent en confiance.
Anna, je suis ravie de t'avoir reçue.
Merci beaucoup à toi, Sophie.
On aurait encore beaucoup de choses à partager. J'engage les gens à aller t'écouter sur ton podcast, te découvrir sur les réseaux sociaux. Merci, merci de ton témoignage.
Merci beaucoup, Sophie.
Demandons par cet amendement des horaires dignes et un salaire décent.
C'est 12 heures d'amplitude pour 4 ou 5 heures payées au SMIC.
J'ai fait un essai sur une grosse machine, ils m'ont fait voir comment c'était. Et comme j'avais de la rapidité et que je travaillais bien, ils m'ont tout de suite pris. J'ai été embauchée tout de suite.
Tous les jours, il y avait quelque chose de différent. Tous les jours, il y avait des urgences. Tous les jours, il fallait s'attendre à quelque chose.
Il fallait prendre le morceau de tissu. Zzz, zzz. Et c'est pas tac, 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 tac.
Voilà, j'ai bien fait de continuer parce qu'après, je vais être contente de moi.
Ah, mais il y a de quoi être fière. Hein.
Les mains d'or. Des mains tendues qu'on oublie parfois de serrer. Des petites mains. Des mains vertes. Oui, des mains qui soignent, nourrissent et produisent. Des mains qui nous grisent et puis surtout, qui nous racontent des histoires. Vous êtes sur Studio Zef 91.1 et les mains d'or, c'est leur voix.